Vous écoutez, on lit pour vous.
Le déclin du temple du Laté, un texte de Sylvain Charlebois, paru le 2 octobre 2025 dans la presse. Pour se rencontrer autour d'une tasse de café, les Canadiens délaissent de plus en plus Starbucks au profit des cafés du coin, des dépanneurs et des nouveaux concurrents. Le géant originaire de Seattle n'est plus le lieu de prédilection qu'il était. La récente annonce de Starbucks concernant la fermeture d'environ 150 points de vente en Amérique du Nord et la suppression de 900 emplois, dont une centaine au Québec selon Le Soleil, peuvent faire penser à une simple restructuration d'entreprise, mais elles révèlent quelque chose de plus profond, une reconfiguration du lieu idéal, cet espace entre la maison et le travail où il fait bon se rassembler. Pendant des années, Starbucks se positionnait avec succès comme le lieu par excellence, où les consommateurs pouvaient s'attarder avec un café au lait, accéder au Wi-Fi et se sentir les bienvenus dans une culture de café qui transcendait le simple fait d'acheter un café. Ce positionnement représentait une réelle valeur économique. En moyennant le temps et l'espace, Starbucks ne vendait pas seulement des boissons, mais offrait également une utilité sociale. Aujourd'hui, on remet en question les fondements économiques de ce modèle. Au Canada, les fermetures se ressentiront particulièrement dans les grands centres urbains comme Toronto et Vancouver, où plusieurs cafés très fréquentés disparaîtront. Même si l'entreprise s'empresse de souligner que ces fermetures ne représentent que 1 % de son réseau nord-américain, la perception au niveau local diffère énormément. Pour les employés, les propriétaires et les commerçants avoisinants, l'absence d'un établissement Starbucks modifie le flux de consommateurs et affaiblit les écosystèmes commerciaux des alentours. Comment expliquer ce changement? La pandémie a bouleversé les habitudes de consommation longuement établies. Le télétravail a brièvement remplacé le besoin de s'arrêter quotidiennement dans un café. Mais à mesure que de nombreux Canadiens retournent sur leur lieu de travail, la demande pour le café et le petit-déjeuner a augmenté. Pourtant, Starbucks ne représente plus le choix par défaut. Les magasins de proximité, les torréfacteurs indépendants et même les concurrents de la restauration rapide comme McDonald's innovent de manière agressive. L'économie du café du matin devient un champ de bataille, davantage façonné par la concurrence sur les prix, les écosystèmes de fidélisation numérique et la simplification des menus. Starbucks a lui-même dû affronter ses problèmes d'efficacité en réduisant son menu et en accélérant son service, afin de satisfaire les clients pressés. Ce faisant, il a toutefois dilué l'essence même du lieu idéal, cet espace accueillant. Les restrictions d'accès aux toilettes et le fait de mettre moins l'accent sur la communauté ont érodé son avantage en matière d'expérience. Parallèlement, les consommateurs redécouvrent les torréfacteurs du coin. Le sentiment d'acheter local, souvent mêlé à un léger courant anti-américain, remet encore plus en question la domination de Starbucks dans les villes canadiennes. Le café se voit également touché par une perturbation plus générale des habitudes alimentaires. Selon Restaurants Canada, les revenus générés par les soupers diminuent, tandis que ceux associés au petit-déjeuner et au repas du midi augmentent. Même McDonald's a signalé une baisse de ses revenus liés au petit-déjeuner, signe d'une concurrence accrue dans ce segment lucratif. Pour les consommateurs, cela signifie plus de choix. Pour Starbucks, cela signifie que la part de marché ne peut plus se défendre uniquement par le prestige de la marque. La leçon à tirer du repli de Starbucks ne s'explique pas simplement par une entreprise en train de réduire ses activités, mais plutôt par une économie du lieu qui se redéfinit. Les consommateurs réévaluent les endroits où ils passent leur temps, les expériences auxquelles ils accordent de la valeur et ce qu'ils sont prêts à payer pour celles-ci. Pour les communautés, les implications sont tout aussi profondes. La diminution du nombre d'établissements Starbucks peut offrir de nouveaux débouchés aux cafés locaux, aux chaînes de magasins de proximité et aux formats alternatifs pour redéfinir l'économie du café. La lutte pour le lieu idéal est loin d'être terminée. Mais ces enjeux économiques favoriseront davantage ceux qui sauront s'adapter rapidement à l'évolution des habitudes des consommateurs, rééquilibrer l'expérience et l'efficacité et renouer avec le rôle social que les cafés jouaient autrefois avec fierté. Starbucks ferme 8 cafés au Québec. Source, la presse canadienne. Café Starbucks, a fermé 8 établissements au Québec en septembre dans le cadre d'une restructuration déployée en Amérique du Nord. Les fermetures font partie d'un plan de réduction des coûts plus large, qui vise à supprimer les établissements les moins performants. Au Québec, les fermetures ont entraîné la perte de 114 emplois, selon les avis envoyés au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 4 établissements ont été fermés à Montréal, 2 à Sherbrooke, 1 à Thetford Mines et l'autre à Sainte-Agathe-des-Monts. Il n'a pas été possible d'obtenir une réaction immédiate de la part de Starbucks pour savoir si d'autres fermetures étaient prévues dans la province. C'était le déclin du temple du latté. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 2 octobre 2025 dans la presse.
La résilience pour pallier les problèmes d'accès à l'eau au Nunavik. Un texte de Catherine Desautels publié le 24 novembre 2025 dans Le Devoir. Les communautés autochtones du Nunavik font preuve d'une résilience impressionnante face aux difficultés d'accès à l'eau. Il n'est pas rare qu'ils n'aient plus d'eau potable à la maison ou que leur réservoir d'eau usée soit plein. Beaucoup s'adaptent à la situation sans broncher et vivent pleinement leur vie dans cette région éloignée du Québec, dominée par le paysage unique de la toundra. Citation « Je ne suis pas stressé avec ça », répond Joshua Nathan Kettler, lorsqu'on lui demande comment il vit les constantes pénuries d'eau. « C'est que nous avons grandi avec ça. Il faut s'adapter. Dans le sud du Québec, on peut utiliser l'eau sans problème et tout le monde peut prendre une douche tous les jours. Mais dans le Nord, il faut réfléchir à sa consommation. » Fin de citation. L'Inuit de 24 ans qui habite Inukjuak raconte qu'il doit aller chercher sa fille à l'école environ une fois par mois en raison d'un manque d'eau. Il doit alors s'absenter du travail le temps que l'interruption se règle, ce qui dure souvent un après-midi ou une journée complète. Il y a certes une inégalité entre le nord et le sud de la province, admet M. Kettler. Citation « Mais je me sens chanceux que notre municipalité travaille sans relâche et s'efforce de rester à son meilleur. C'est bien. Il y a encore des progrès à faire, mais je suis content comme c'est maintenant. » Fin de citation, relate-t-il calmement. Même son cloche à Puvirnituk, où Marilyn Simpson, 79 ans, vit avec son conjoint, Paulusi Anjiyu, 75 ans. Le fils de ce dernier, du même nom, ainsi que sa copine, Siazi Padlayat, et leur petit bébé. Et le jeune couple attend un autre enfant cet hiver. Citation « Il y a toujours eu un manque d'eau, peu importe que cela soit géré par une machine ou à la main, comme nous étions habitués avant », commente M. Anjiyu, qui a vécu en tente et en igloo durant son enfance. Citation « Nous avons vécu ici quand il n'y avait pas l'eau courante », raconte Mme Simpson. « Nous nous adaptons mieux que certaines personnes en ville, je pense. » Fin de citation. Pour des Québécois qui n'ont jamais mis les pieds au Nunavik, cette détermination étonne. Manon Rancourt, ancienne coordinatrice à la direction des services hospitaliers du Centre de santé Inulik-Sivik, a vécu à Purvinituk quelques années. Résilient. Je pense que c'est la plus belle façon de qualifier ce peuple. C'est comme s'il n'y en avait jamais de problème. Ils sont très résilients avec ça. Ils sont venus au monde là-dedans, c'est ce qu'ils connaissent. Ce n'est pas un peuple qui est plaignard, commente-t-elle, fin de citation. Des astuces ingénieuses. Siazi Padlayak est un peu plus stressée lorsque le niveau du réservoir d'eau est bas, en raison de sa petite fille qui, depuis peu, a cessé de boire au sein. Elle a donc besoin d'eau pour la préparation pour nourrisson. Citation, c'est différent quand on a un bébé. C'est sûr que c'est une source d'inquiétude, confie-t-elle. Fin de citation. Quand le couple craint de manquer d'eau, le père se rend à la rivière avec de grandes cruches pour amener de l'eau qu'il fait ensuite bouillir. Joshua Nathan Kettler fait pareil. Citation, dans le pire des cas, si tout est hors service, nous pouvons aller chercher de l'eau à la rivière un peu plus haut, dit-il. L'hiver, il fait un trou dans la glace, comme pour la pêche sur la glace, fin de citation, et collecte l'eau dans le trou. Le maire d'Inukjuak, Bobby Epo, indique que les citoyens ne sont pas tous sensibles à la consommation d'eau. Citation, certaines familles sont très prudentes, certaines limitent volontairement leur consommation d'eau, tandis que d'autres s'en fichent complètement. Ellipse, je dirais que 40% d'entre eux sont frustrés, 40% y sont habitués, et les 20% s'en fichent complètement, mentionne-t-il, fin de citation. À force de manquer d'eau, les résidents ont développé des astuces pour gérer leur réservoir. M. Kettler explique qu'il va parfois débrancher le tuyau d'évacuation de sa laveuse pour le mettre dans un très grand bac dans lequel l'eau du lavage va se déverser. Il vide ensuite le bac à l'extérieur de la maison, ce qui empêche son réservoir d'eau usée de se remplir trop vite. Marilyn Simpson va plutôt garder l'eau de son bain lorsqu'elle a terminé de se laver, et elle va ensuite en transviser une bonne partie dans la laveuse. Le cycle de lavage utilise ainsi beaucoup moins d'eau potable. Responsabilité gouvernementale. Les raisons qui mènent à une pénurie d'eau sont très aléatoires, pointe Liv Larson, coordinatrice des ressources matérielles pour le Centre de santé Inuvik. Citation, c'est difficile de mettre le doigt sur une chose et de dire « OK, on va régler ce problème. » Il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte, soutient Mme Larson. Ellipse, le gouvernement a sa part de responsabilité. Le gouvernement du Canada, en améliorant les pistes des aéroports pour permettre aux avions de pouvoir mieux atterrir et mieux voler, puis le gouvernement du Québec en mettant en priorité les services nécessaires, essentiels aux gens, comme l'accès à l'eau. Et aussi, il y a énormément d'aspects avec lesquels aucune autre région du Québec ne doit composer, souligne le Dr Yassine Tcholakov, médecin de santé publique et chef du service des maladies infectieuses au Nunavik. Citation, ce sont des choses sur lesquelles une intervention plus intensive, avec plus de ressources, pourrait plus rapidement changer l'état des choses au Nunavik. Il y a des plans d'immobilisation, des plans de construction et d'augmentation de la taille des CLSC dans les communautés où la population a grandi. Mais ce sont des plans à long terme. Ellipse, ce ne sont pas des choses qui vont arriver du jour au lendemain. Fin de citation. Autre citation, il faut qu'on travaille avec les communautés et avec le ministère pour trouver des solutions qui vont permettre d'amener la population du Nunavik à un niveau de santé qui est similaire à celui du reste de la population du Québec, conclut le Dr Tcholakov. La journaliste Catherine Desautels a été soutenue par la Fondation Michener, qui lui a attribué la bourse Michener-Deakin pour le journalisme d'enquête en 2025, afin qu'elle documente les répercussions du manque d'accès à l'eau courante dans les communautés autochtones du Nunavik. C'était « La résilience pour pallier les problèmes d'accès à l'eau au Nunavik », un texte de Catherine Desautels, publié le 24 novembre 2025 dans Le Devoir.
traitement de l'asthme et des allergies, un médicament lié à des suicides mais largement prescrit. Un dossier d'Alice Girard-Bossé, paru le 31 mars 2024 dans la presse. Singulaire, un médicament traitant l'asthme et les allergies est lié depuis des années à des suicides. Au point où Santé Canada émet désormais une mise en garde devant l'utilisation de ce médicament. Pourtant, de plus en plus de patients assurés par la Régie de l'assurance maladie du Québec en consomment. Une tentative de suicide à 6 ans. Le médicament singulaire fait désormais l'objet de mises en garde et précautions importantes par Santé Canada, le type d'avertissement le plus fort qui existe au pays. De nombreux patients se voient tout de même prescrire ce médicament, souvent lorsque les autres traitements contre l'asthme échouent, même au Québec. La docteure Francine Ducharme, pédiatre et épidémiologiste clinique au CHU Sainte-Justine, rencontre régulièrement des patients qui subissent des effets secondaires sévères du médicament. J'en ai au moins toutes les deux semaines. Agitation, agressivité, dépression, troubles du sommeil, pensées et comportements suicidaires. La docteure Ducharme les a tous vus. L'une de ses patientes a commencé à prendre le médicament singulaire à 5 ans. Elle a fait une tentative de suicide à 6 ans. À 6 ans, lance la docteure Ducharme. Puis elle a fait une seconde tentative de suicide à 11 ans, alors qu'elle prenait toujours le médicament. Lorsque la médecin a rencontré la jeune fille pour la première fois à l'âge de 12 ans, elle s'est empressée de lui faire arrêter le traitement. Le singulaire, de son nom générique Montelukast, est un médicament approuvé pour le traitement de l'asthme chez les adultes et les enfants et pour aider à contrôler les symptômes nasaux des allergies saisonnières. Lors de sa mise en marché en 1997 au Canada, le fabricant de l'époque, Merck, notait peu d'effets secondaires dans les effets cliniques. Il y avait un petit peu de nausée, un petit peu de mal au ventre, un petit peu de mal de tête, mais pas de grosses choses. Il n'y avait pas d'effets secondaires neuropsychiatriques, se remémore la docteure Francine Ducharme. Il faudra attendre en 2008 pour que de nouveaux signalements poussent Santé Canada et la FDA à mettre à jour la liste d'effets secondaires du médicament, afin d'y inclure la dépression, les pensées et les comportements suicidaires et l'anxiété. Les effets secondaires peuvent se présenter différemment chez les adultes. Les effets qu'on voit sont souvent des cauchemars. J'ai eu quelques cas où les personnes avaient des problèmes anxieux. Des gens disaient aussi qu'ils avaient une moins bonne humeur, dit la docteure Christelle Godbout, pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, IUCPQ, spécialisée en asthme chez les adultes. Elle voit des patients avec des effets secondaires du médicament quelques fois par année. Un avertissement inexact. Jusqu'à présent, Santé Canada a reçu plus de 4000 déclarations d'effets indésirables en lien avec Singulaire. De ceux-ci, 3116 rapports étaient sérieux, indique le porte-parole de l'agence Mark Johnson. Les professionnels de la santé ont d'ailleurs été prévenus par Santé Canada du risque d'événements neuropsychiatriques graves associés au Montelukast au moyen d'une nouvelle mention de mise en garde des précautions importantes en août 2020. Cette mention constitue le type d'avertissement le plus fort pour un produit au Canada. Les bienfaits de Singulair chez certains patients pourraient ne pas être supérieurs aux risques encourus, surtout lorsque les symptômes de la maladie sont légers et qu'ils peuvent être bien maîtrisés avec d'autres traitements, peut-on lire dans l'avertissement de Santé Canada. La docteure Ducharme estime toutefois que l'avertissement de Santé Canada ne révèle pas l'ampleur du problème. Dans la monographie du produit datant de 2021, on peut lire que les effets indésirables ont été signalés très rarement, soit dans moins de 1 cas sur 10 000. C'est inexact de dire que ça arrive moins de 1 sur 10 000, s'exclame la docteure Ducharme. Ceci suggère que les patients, les pharmaciens et les médecins devraient apporter de façon plus systématique tout effet secondaire. Santé Canada est plutôt d'avis que les avertissements inclus dans la monographie actuelle de produits sont à jour et communiquent les risques en question. Le signalement d'effets indésirables est pris au sérieux, a pour sa part déclaré Dominique Quirion-Dorgagnon, fabricant de Singulair depuis 2021. Comme pour tous nos médicaments, nous surveillons continuellement l'innocuité de Singulair. Quelques mois avant Santé Canada, la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis, avait également demandé qu'une mise en garde encadrée, ou « black box warning » en anglais, soit ajoutée aux informations de prescription du Montelukast pour décrire ses effets secondaires graves sur la santé mentale. La FDA a annoncé du même coup avoir identifié 82 cas de suicide associés aux médicaments, dont 19 chez des enfants. Sachez que certains patients ont rapporté des événements neuropsychiatriques après l'arrêt du Montelukast, précise l'agence sur son site internet. Lorsque la docteure Christelle Godbout a terminé son cours de pneumologie en 2014, les effets secondaires du médicament Singulair étaient peu connus. Je prescrivais le Singulair aux patients et je ne leur parlais pas des effets secondaires parce que ce n'était pas très bien publicisé. Elle a été beaucoup plus sensibilisée aux effets neuropsychiatriques depuis que la FDA a émis son Black Box Warning en 2020. Elle estime toutefois que l'avertissement de Santé Canada passe, encore à ce jour, inaperçu par rapport à celui de nos voisins du Sud. Les mises en garde de Santé Canada, je dirais que c'est moins bien publicisé. Le Black Box, ça fait peur. Au moins 38 000 utilisateurs au Québec. Malgré les sérieux avertissements de l'agence fédérale, le médicament est encore prescrit. En 2023, plus de 38 000 personnes ont eu recours aux médicaments Singulair, en augmentation constante dans les 10 dernières années, selon les données de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, obtenues par la presse. Ces données ne concernent que les personnes assurées par le régime public. « Ce n'est jamais un premier choix en asthme », dit la docteure Christelle Godbout. « On va se servir du Singulair chez l'adulte en ajout aux pompes de corticostéroïdes quand elles ne sont pas suffisantes pour contrôler l'asthme. » « Singulair a l'avantage d'être un médicament en comprimé », dit la spécialiste. « Les patients oublient beaucoup les pompes, alors qu'un médicament par la bouche, ils le prennent assez régulièrement. » « Singulair peut également permettre d'éviter d'augmenter les doses de cortisone dans les pompes qui peuvent avoir des effets indésirables à long terme. » Pour avoir accès aux thérapies avancées contre l'asthme, soit des médicaments en injection remboursés par la RAMQ, le gouvernement demande d'ailleurs à ce qu'il y ait eu un essai de Singulair ou d'un autre médicament avant de pouvoir accéder à ces thérapies avancées, dit-elle. J'avais l'impression que mon fils avait pris de la drogue. Bien que la consommation du médicament par les mineurs ait diminué dans les 10 dernières années, plus de 2000 enfants de moins de 10 ans sont toujours traités avec ce médicament. Le Singulair est souvent prescrit lorsque les autres traitements contre l'asthme se révèlent inefficaces, explique le docteur Larry Lanz, directeur de la division de médecine respiratoire à l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est le cas du fils de Mylène, qui était âgé d'à peine un an lorsqu'il a commencé à prendre du Singulair l'année dernière. Le bambin avait essayé deux autres médicaments auparavant sans succès. Les effets bénéfiques du Singulair ont été instantanés. Ça a été magique. L'asthme a complètement disparu. Ce n'était jamais arrivé avant que son asthme soit contrôlé, raconte Mylène. La famille avait été prévenue par l'équipe médicale de suivre attentivement les éventuels effets neurologiques du médicament. Mais la pharmacienne m'avait dit que c'était une vieille molécule et que le médicament existait depuis longtemps et qu'on n'avait pas à s'inquiéter. Dans les jours qui ont suivi, elle a constaté que son fils était devenu hyperactif. On n'était même pas capable de lui lire un livre, il fallait toujours qu'on soit dans le mouvement. Elle en a discuté lors du suivi de son fils à l'hôpital. La famille et l'équipe médicale en ont conclu que les bénéfices étaient plus grands que les risques. Or, les semaines passées, son agitation ne faisait qu'augmenter. Il y a une soirée où je n'arrivais plus à entrer en contact avec lui. Tout le stimulait, la chaleur, les couleurs. J'avais l'impression que mon fils avait pris de la drogue. La famille a arrêté le médicament dès le lendemain. Une semaine plus tard, le garçon était de retour à son état normal. Il est venu nous serrer dans ses bras et rester collé sur nous. Il ne faisait jamais ça. On s'est rendu compte que le médicament avait vraiment eu un gros effet sur lui. On m'avait dit que c'était comme prendre une pilule de sucre, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, se remémore Anne-Lisa Ogno. La jeune femme s'était faite prescrire le médicament Singulair pour contrôler son asthme en 2007. Alors étudiante à McGill, à Montréal, pour sa thèse de doctorat, Madame Ogno s'est mise à souffrir d'une dépression sévère quelques semaines après avoir commencé à prendre le médicament. « Je n'ai pas d'antécédent de dépression et ça m'a frappée très rapidement. » La jeune femme avait entendu parler de suicides signalés aux États-Unis en lien avec Singulair. « J'ai demandé à ma psychiatre si ma dépression pouvait être due au Singulair, mais elle ne savait rien à ce sujet à l'époque. » se rappelle celle qui est aujourd'hui enseignante au Collège Dawson. Voyant de plus en plus de recherches sur les effets secondaires du médicament, elle a décidé de cesser de prendre la médication en 2010. Ses effets négatifs ont grandement diminué, mais n'ont jamais complètement cessé. De 10 à 15% des enfants touchés. La docteure Francine Ducharme, spécialiste de l'asthme chez les enfants, fait partie des chercheurs qui ont étudié les effets secondaires du médicament. Elle se rappelle l'histoire d'une patiente qu'elle a mise sur Singulair. Son papa m'a appelé deux semaines après et m'a dit « Ma petite princesse est devenue une bitch ». La fillette était devenue agressive et irritable. Quand les parents ont arrêté la prise du médicament, l'état de leur fille est revenu à la normale. Mais quand ils ont réessayé le médicament, ses symptômes sont revenus. Intriguée, la docteure Ducharme a décidé d'explorer le sujet. Elle a demandé le consentement des patients de la clinique d'asthme du CHU Sainte-Justine pour accéder à leurs dossiers médicaux à des fins de recherche. Elle a ensuite analysé et comparé les résultats des patients traités avec du Singular Montelukast à ceux des patients traités avec des corticostéroïdes, un traitement populaire contre l'asthme. Les résultats de son étude publiée en 2017 sont sans équivoque. On s'est rendu compte qu'il y avait 10 à 15% des enfants qui avaient un effet secondaire neuropsychiatrique avec le Montelukast, dit la docteure Ducharme. Cela inclut un effet sur le sommeil, comme un délai d'endormissement ou des terreurs nocturnes, et des effets sur l'humeur, où les enfants sont tristes ou irritables. Elle précise que les premiers effets secondaires surviennent généralement dans les 2 premières semaines, tandis que les suicides tendent à se produire de 2 à 4 ans après le début de la prise du médicament. Environ 85% n'ont aucun effet secondaire, précise toutefois la docteure Ducharme. Les enfants sont généralement plus à risque que les adultes d'avoir des effets neuropsychiatriques, indique le docteur Larry Lands, directeur de la division de médecine respiratoire à l'hôpital de Montréal pour enfants. Des études réalisées chez les rats suggèrent d'ailleurs que le médicament pourrait agir directement sur les cellules du cerveau. Prévenir les familles. Santé Canada rappelle aux professionnels de la santé de rester à l'affût de tout changement de comportement ou de tout nouveau symptôme pendant la prise du Singular et de cesser de prendre le médicament si un changement de comportement est observé. On prévient toutes les familles que ça peut causer des effets comme un changement de comportement. Si elles notent un changement, elles doivent arrêter le médicament et normalement les effets secondaires disparaissent en 2 ou 3 jours, dit le Dr. Lands. L'Ordre des pharmaciens du Québec rappelle pour sa part que les pharmaciens ont la responsabilité de se tenir informés sur les nouvelles études publiées sur les médicaments qu'ils distribuent et d'accompagner adéquatement leurs patients en tenant compte des avancées scientifiques. La docteure Francine Ducharme, pédiatre et épidémiologiste clinique au CHU Sainte-Justine, lance un message aux professionnels de la santé. Si vous le prescrivez, il faut que vous ayez le temps d'expliquer. Le plus important, c'est que les gens soient au courant que ça peut arriver. C'était « Traitement de l'asthme et des allergies, un médicament lié à des suicides, mais largement prescrit », un dossier d'Alice Girard-Bossé, paru le 31 mars 2024 dans la presse.